Chapitre 16. Le calvaire.
C'est la guerre, se dit Jacques lorsqu'il se trouva seul. Ou plutôt, c'est la défaite. Par bonheur, Émile arrive dans 3 jours. J'irai l'attendre au chemin de fer. Je lui exposerai la situation telle qu'elle est. Et je le prierai de mettre Caroline en demeure de se prononcer définitivement.
Foulogne fut un peu surpris de trouver Jacques à la gare.
« Est-ce qu'il y a du nouveau ? »
demanda-t-il. Jacques lui raconta tout sans passer un mot, un fait, un geste. Foulogne fut épouvanté. Il avait vécu depuis longtemps dans une heureuse insouciance, sans se demander ce qui se passait, sans s'inquiéter de ce qui se passerait. Il n'avait deviné aucune des douleurs au milieu desquelles il vivait. Il n'avait pressenti aucune des tempêtes qui grondaient autour de lui, non qu'il fût méchant ou égoïste, mais comme, depuis qu'il avait renoncé à la politique, il n'avait que des passions faciles à satisfaire, il n'avait eu aucun intérêt à exercer sa sagacité. Il était resté très peu pénétrant, fermement persuadé que tous étaient aussi contents, aussi heureux que lui.
« Tu exagères peut-être les choses, »
dit-il à Jacques.
« Caroline est avec Arthur comme on est avec un bon garçon, mais c'est toi qu'elle aime d'amour. Pourtant, il ne faudrait pas se fâcher avec Arthur. Nous lui devons pas mal d'argent. Et tu sais aussi bien que moi que si Caroline est encore en vie, c'est grâce à lui. Ah, tout ça est bien embrouillé et bien malheureux. »
« Mais, enfin, tu me promets de parler à Caroline ce soir ?»«
Ah, ce soir permet un peu. Il est 10 heures. Il faut absolument que je passe au Coq Gaulois. Je ne rentrerai pas avant minuit. Caroline sera couchée. Je n'irai pas la réveiller pour lui conter des choses désagréables. Mais demain matin, nous aurons une explication. »«
Ah !» dit tristement Jacques. Pour lui aussi, je ne suis pas tout. Le Coq Gaulois vient avant moi.
Le lendemain, dès le matin, Émile entra dans la chambre de sa sœur. Jacques, attendant le résultat avec une cruelle anxiété, se tint debout auprès de la fenêtre, regardant dans la rue. Émile resta 2 heures dans la chambre de Caroline. 2 heures mortelles pour Jacques, pendant lesquelles il passa par toutes les alternatives du désespoir et de l'espérance. 2 heures pendant lesquelles il souffrit plus qu'il n'avait encore jamais souffert, car toute sa vie d'amour lui défilait devant les yeux avec une intensité de joie et de douleur d'autant plus fiévreuse, d'autant plus poignante, que le but était maintenant plus incertain, le résultat plus douteux qu'il ne l'avait jamais été. Quand Émile ressortit, il était très pâle, il prit son chapeau et le brossa d'un air embarrassé.
« Tu sors ?»
fit Jacques stupéfait.
« Oui, je vais faire une course. Je rentrerai tout de suite. Caroline est un peu malade. Elle est sur son lit et désire se reposer. »«
Oui, mais... »
Émile avait habilement gagné la porte et il courait déjà dans l'escalier. Jacques s'élança après lui, l'appela à plusieurs reprises, mais ce fut en vain. Émile ne remonta pas et même ne répondit pas. Toute la journée, Caroline et Jacques restèrent l'une dans sa chambre, l'autre dans la salle à manger, sans donner signe de vie, sans remuer, comme s'ils étaient morts tous deux. Et de fait, ils traversaient l'un et l'autre une cruelle agonie. Ils sentaient qu'entre eux l'irréparable s'était abattu, qu'au-dessus de tant de journées tristes et sombres planerait cette journée plus funeste à elle seule que toutes les autres. Ils restaient là, elle sur son lit, inquiète, irrésolue, pleurant, lui, sur sa chaise, auprès de la fenêtre, un livre devant les yeux, mais ne lisant pas, regardant machinalement tomber la pluie grise, fine, continue,
une vraie pluie de décembre, et attendant, sachant qu'on allait venir lui porter le dernier coup, prêtant l'oreille, sentant son cœur battre au moindre pas, effrayé de la longueur du temps, et à certains moments se disant qu'il était bien court. Fouloy ne rentra que vers 5 heures. Il n'était pas seul. Chaise-Martin l'accompagnait. Celui-ci avait pris une physionomie de circonstance, l'air froid, rogue et gourmé. Ils causèrent pendant 1 heure à peu près de choses qu'ils tâchèrent de faire indifférentes. Puis Caroline, qui n'avait pas paru de la journée, vint annoncer que le dîner était servi. Pendant ce repas, qui fut très court, on parla à peine. Chacun, concentré au dedans de soi, réfléchissait au langage qu'il allait tenir, à la ligne de conduite qu'il allait adopter. On savait que l'heure décisive et solennelle était arrivée. Foulogne fit un grand feu devant lequel on se rangea. Le silence devint morne, glacial. Au bout d'une heure, Caroline se leva, alla à la porte-fenêtre donnant sur le balcon et, écartant les rideaux, elle regarda le ciel.
« Tiens !» fit-elle. « On dirait que la pluie a cessé. Je vois 2 ou 3 étoiles. »
Elle ouvrit alors la porte et sortit sur le balcon. Les 3 hommes respirèrent et se sentirent plus à leur aise.
« Est-ce que tu n'as rien à me dire, Émile ?»
demanda enfin Jacques, pris d'un courage désespéré. Chaise-Martin vint au secours de Foulogne.
« Et vous, Jacques, est-ce que vous n'avez rien à dire à Caroline ? Croyez-vous qu'elle soit sur le balcon pour son plaisir ? Si quelqu'un peut vous apprendre du nouveau ici, c'est elle seule. »
Jacques rougit de cette leçon si cruellement appliquée, et se levant,
« Vous avez parfaitement raison, » dit-il. « Il faut que cette odieuse comédie finisse, et le plus tôt sera le mieux. »
Et il alla rejoindre Caroline sur le balcon.
« Te voilà, mon Jacques !»
lui dit-elle.
« Pauvre enfant, comme tu souffres ! Ah, je suis bien chagrine, va !» de te voir souffrir ainsi. Si je pouvais te bercer sur mon cœur pour endormir ta tristesse. »
Elle l'entoura de ses bras, l'attira contre elle, puis, lui mettant la main sur le front,
« Comme ta tête est brûlante. Ne sois pas malade au moins, je ne m'en consolerai jamais. C'est que, vois-tu, Jacques, tu seras toujours mon frère bien-aimé. Nuit et jour, ta pensée me sera sans cesse présente. Mais, hélas, vivre ensemble, c'eût été trop de bonheur. Nous n'en étions pas dignes. Il y a une fatalité sur moi. Je porte malheur à ceux que j'aime. Je t'aurais fait du mal en te voulant faire du bien. Oui, tout serait mieux finissant de la sorte. « Si tu ne souffrais pas trop. »«
De quoi parles-tu ? »
fit Jacques.
« Je ne te comprends pas. C'est donc bien vrai ? C'est fini ? Et tu en es déjà à faire l'oraison funèbre de notre amour ? Oh, c'est horrible ! Tu es muette maintenant, tu me regardes, tu pleures. Mais que veux-tu que je fasse ?
« Calme-toi, Jacques. Je serai ton ami dans le malheur. Nous ne cesserons pas brusquement de nous voir. Et plus tard, quand ta plaie sera cicatrisée, nous pourrons nous retrouver et nous entretenir même de ce moment si douloureux. »«
Tu es déjà dans l'avenir ? Ainsi, c'est mon congé ? Tu ne romps même pas ? Tu me chasses ?
« Allons, décidément,
fit-elle avec humeur.
Tu as un mauvais caractère. Je te parle doucement. Tu t'irrites. Prends-le comme tu voudras.
Et lui tournant le dos, elle se mit à regarder dans la rue. Lorsqu'il rentra dans la chambre, il était pâle comme la mort.
« Il paraît qu'il ne fait pas bon sur le balcon, »
dit Chaise-Martin.
« Cependant, en littérature, le balcon est propice aux amoureux. Nous avons le balcon de Roméo et Juliette, celui de... plusieurs autres, enfin. Parbleu !»
fit-il en se levant et en jetant au feu son cigare à moitié fumé.
« Il faut que je voie si j'aurai aussi mon balcon de la Bérésina. »
Quand à son tour il arriva sur le balcon, Caroline était tellement absorbée qu'il eut besoin de lui mettre la main sur l'épaule.
« C'est vous, Arthur ? »
fit-elle en tressaillant.
« Parbleu, oui, c'est moi. Les poètes s'en vont, les calicots viennent. »«
Pouvez-vous avoir le cœur de plaisanter en ce moment ?»«
Ma foi, mademoiselle, le plus dur de nous deux, ce n'est pas moi. » « Je ne vous demande pas ce que vous avez dit à ce pauvre garçon, mais ça ne devait pas être consolant, car il est rentré avec une figure de déterré. Cependant, ce n'était assurément pas assez positif, car il s'est rassis sur la chaise plus solidement que jamais. »«
Ah, vous êtes impitoyable !»«
Mais ce n'est pas moi, c'est vous. Moi, je lui aurais dit « 20 ans ». C'est cruel, mais c'est court. » Tandis qu'avec votre bonté, vous lui prolongez à plaisir la douleur. Dieu me garde des âmes bonnes et sensibles.
« Ah, malheureux Jacques !»
s'écria-t-elle en fondant en larmes.
« Je n'aurai jamais le courage de le traîner ainsi. »
« Après ça, si vous l'aimez, je ne vous en empêche pas. Rappelez-le. Jetez-moi tous les deux sur ce monsieur qui passe là dans la rue. Accomplissez tranquillement ce fait pari. » « Vous direz que j'avais bu trop de vie et que j'ai fait la culbute en voulant courir sur les toits. »« Ah, n'ayez pas peur. Vous ne serez pas inquiétés. On vous croira. Si ce n'est toujours pas ma famille qui vous demandera des explications. »«
Il n'était pas fumiste. »
gémira ma mère.
« Fallait pas qu'il aille sur les toits. » »«
Jacques fera une pièce de vers intitulée « Le méchant » où je tomberai pendant 7 strophes autant que l'étage. Épousez-le, votre poète. » « Ayez beaucoup d'enfants, mais, sacrebleu, que ça finisse tout de suite !»
Elle ne répondit pas. Il frappa du pied. Il avait bu toute la soirée à petits coups, mais dans un grand verre.
« Voyons, voulez-vous que je l'empoigne par les reins et que je le lance dans l'escalier ? Voulez-vous que je m'en aille ?»
Il fit un mouvement vers le salon.
« Arthur !»
s'écria-t-elle d'un ton de reproche et en lui tendant la main. En ce moment, la pluie recommença.
« Ce balcon devient malsain, »
dit-il.
« Eh bien, »
reprit-elle,
« attendez encore 2 minutes ici. Vous me rejoindrez dans la chambre d'Émile. Et là, je vous dirai ma résolution dernière. »
En traversant le salon pour aller retrouver Caroline, Chaise-Martin tira sa montre.
« Il est 11 heures, »
dit-il, sans s'adresser directement à personne. Mais en regardant Jacques,
« Il partira encore ce soir 3 omnibus de la place Cadet. »
Quand il eut refermé la porte, Jacques, un instant stupéfait, fut repris d'une colère folle. Il s'élança sur ses pas et il arriva presque en même temps que lui dans la chambre d'Émile.
« Qu'est-ce que vous venez faire ici ?»
lui dit Arthur.
« Vous voyez bien que mademoiselle désire rester seule avec moi. »
« Que mademoiselle me le dise elle-même !»
Caroline les regarda tous deux avec égarement, puis, mettant sa main dans celle d'Arthur,
« Pardonne-moi, mon Jacques, mais je l'aime !»
Après ce qui venait de se passer, après ce que Caroline lui avait déjà dit sur le balcon, Jacques aurait dû recevoir cet aveu sinon sans colère, au moins sans surprise. Il le reçut avec stupeur. Durant quelques secondes, il resta immobile, hagard, comme s'il ne comprenait pas bien.
puis le sang lui monta à la gorge, ses yeux se gonflèrent de larmes, et il sentit que la douleur allait être plus puissante que la rage, que, devant son rival, il allait pleurer. Par un dernier effort de volonté, il refoula ses pleurs et, relevant les yeux, il regarda Caroline et Arthur. Ils étaient restés la main dans la main, lui railleur et triomphant, elle confuse et tremblante. Pour Jacques, de pâle qu'il était quand il avait posé sa question, il était devenu livide. Qu'allait-il se passer ? Foulogne, qui était venu jusqu'à la porte de la chambre, d'où il avait tout entendu, comprit que le moment était décisif. D'un bond, il courut à Jacques, le prit dans ses bras, et, avant que celui-ci pût se défendre et même savoir ce qu'on lui voulait, il l'entraîna dans le salon, et là, s'adossant contre la porte qui ouvrait sur la chambre,
« Allons, Jacques !»
lui dit-il.
« Sois calme, mon ami, je t'en supplie !»
Mais Jacques ne répondit pas. Hébété, abasourdi, il marchait en tournoyant dans le salon, s'arrêtait brusquement et se remettait en marche comme s'il eût été frappé de folie. Ils demeurèrent ainsi silencieux assez longtemps, puis Émile, qui ne savait comment sortir de cette horrible situation, ni surtout comment dire à Jacques
« Il faut en aller !»
tira un crayon de sa poche, chercha un carré de papier dans son portefeuille et se mit à écrire tout en murmurant
« Pauvre garçon, il n'y a pas d'autre service à lui rendre. »
Quand il eut fini, il plia en deux ce carré de papier et le tendit à Jacques. Celui-ci le prit machinalement, interrogea Foulogne des yeux, puis, d'une voix presque inintelligible,
« Eh bien quoi ? »
dit-il.
« Dame, tu comprends, mon pauvre Jacques, tu ne peux pas rester ici. »«
Ah, oui, c'est juste. Sois tranquille, va. Je n'en avais pas envie. »
Et prenant son chapeau, il se dirigea vers la porte, mais presque aussitôt, revenant sur ses pas, et d'un air qu'il tâchait de rendre calme,
« Dans deux ou trois jours, je te ferai savoir où je serai. Tu viendras me voir, n'est-ce pas ?»«
Ah, mon ami !»
s'écria Foulogne.
« C'est entre nous à la vie, à la mort !»
Ils s'embrassèrent, et les yeux troublés, la tête perdue, le corps tremblant, Jacques descendit. Au bas de l'escalier, il se souvint du papier que Foulogne lui avait remis, et à la lueur de la lanterne du concierge, il lut.
Hôtel du Rhône, rue Dauphine, je te le recommande. On y mange très bien, c'est celui de Roblot.
Muni de ce seul viatique, sans asile, sans ressources, sans amis, sans amour, Jacques se lança, à minuit moins un quart, dans les rues de Paris. Il marcha longtemps droit devant lui dans la boue épaisse, coudoyant les passants, évitant à peine les voitures, laissant souvent le trottoir encombré pour prendre le milieu de la chaussée, tout cela toujours sous une pluie battante, une pluie fine, menue, imperceptible. Il était transi jusqu'aux os. Il avait perdu conscience de lui-même. Quand il ne vit plus de boutiques ouvertes, que les rues se dépeuplèrent, devinrent silencieuses, il se dit machinalement « Je vais rentrer ». Puis surgit cette réflexion désespérante.
« Où rentrer ? Je n'ai plus de maison. »
Alors il se souvint de l'hôtel du Rhône. Mais quand il arriva rue Dauphine, il était 1 heure du matin. Seul, sans bagages, sans argent, mal mis, sale comme un chien, Jacques n'osa réveiller le maître d'hôtel, qui, assurément, n'aurait pas voulu le recevoir à cette heure et dans cet état. Il pensa alors qu'un de ses camarades, Boudignot, que justement il avait rencontré peu de jours auparavant et dont la profession était de déployer en parole toutes les vertus chrétiennes, lui avait dit
« Si tu as jamais des jours d'épreuve, viens te réfugier dans mon modeste asile où expirent les bruits du monde. »
Ce modeste asile était situé rue des Postes. C'était bien loin, mais Jacques n'avait pas l'embarras du choix. Il y alla. La maison où Boudignot occupait un appartement était un grand hôtel meublé, tenu par une vieille fille dévote qui était heureuse et fière d'abriter chez elle, moyennant pécune, une nichée de futurs saints et de futurs martyrs. On s'y couchait entre 8 et 9 heures, les plus mondains n'avaient jamais dépassé 9h30. Lorsqu'à 1h3 quarts du matin, on entendit résonner la sonnette de la porte, il se passa dans l'esprit de l'hôtesse quelque chose d'extraordinaire. Elle crut que c'était au moins le nonce apostolique. Au bout de 10 minutes, un domestique vint ouvrir.
« Que demandez-vous, monsieur ? »
dit-il à Jacques.
« Monsieur Boudignot est-il chez lui ? » ?»«
Comment ? C'est pour me demander ça que vous sonnez à une heure pareille ? » ?»«
J'ai absolument besoin de le voir. »
« Alors entrez, car par ce temps affreux, il y aurait péché à laisser un païen dehors. »«
D'où viens-tu, bon Dieu ? Et pourquoi viens-tu ? »
s'écria Boudignot en apercevant Jacques. Jacques exposa sa situation et termina en disant que, n'ayant pas d'asile, il venait en chercher un.
« Mais je ne veux te gêner en rien, »
se hâta-t-il d'ajouter.
« Je dormirai dans un fauteuil. Si tu as un livre à me prêter, je passerai la nuit à lire. »
« Il y en a d'excellents ici, »
répondit Boudignot.
« Fait pour calmer une âme malade. Si tu veux prendre sur cette tablette ce volume relié en noir, c'est le voyage en Tartarie, de l'abbé Huc. Je crois qu'il conviendra à ton état. Tu y trouveras une saine distraction et, si ton esprit te le permet, d'utiles renseignements. »
Jacques ne répondit pas. La conscience de son malheur lui revenait vive et distincte et, affaissé dans un fauteuil, il sanglotait irrésistiblement.
« Ne pleure pas si haut, je t'en prie, » lui dit Boudignot. « Ça éveillerait les personnes d'à côté, et on ferait des commentaires à n'en plus finir. C'est déjà bien assez que je te reçoive dans ma chambre à 7 heures de la nuit. Tâche de prendre le dessus. Quand tu m'as parlé de ton amour, la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, je n'ai pas voulu jeter une ombre dans ta joie, mais j'aurais pu te prédire mot pour mot ce qui vient de t'arriver. Toutes les affections humaines se ressemblent, vois-tu, charmantes au début, affreuses à la fin. Toutes elles laissent dans la bouche un goût de cendre, comme dit le psalmiste. Du moment que tu n'étais pas marié avec cette personne dès le premier jour, cet état mixte, cette vie à trois que je ne veux pas qualifier, devait aboutir tôt ou tard à la confusion et au désordre. J'aurais voulu que tu entendisses sur ce sujet, qui est précisément le tien, la dernière conférence du Père Labutte dans une de nos réunions de Saint-Vincent de Paul. Dieu humilie la superbe de ceux qui cherchent un bonheur purement humain. Et celui qui met sa joie dans la créature, au lieu de la mettre dans le Créateur, en est toujours cruellement puni. Sans doute, tu souffres, mais la douleur, c'est une langue de feu qui purifie. Tu es comme saint Paul avant l'éclair du chemin de Damas. Que d'âmes,
ajouta-t-il en levant les yeux au ciel,
que d'âmes saoulées des jouissances terrestres ont été ramenées à Dieu par des déceptions pareilles à la tienne. Tiens, c'est justement par un événement de même nature que le Père Labutte, dont je te parlais tout à l'heure, a été conduit au pied des autels. Il aimait la fille d'un fermier de Duclair, car ce digne homme est fils de paysan. Les deux familles consentaient au mariage. Les jeunes époux allaient recevoir la bénédiction nuptiale lorsque, par un caprice inexplicable,
disons mieux, par un décret du ciel, cette jeune fille épousa un caporal en congé dans le pays. Le jeune Labutte offrit au Seigneur son amour dédaigné. Et il me disait encore, il y a 15 jours,
« Je ne pense plus du tout à cette femme. »«
Quel âge a-t-il ?»
demanda machinalement Jacques, qui n'avait guère écouté cette pieuse homélie.
« Il a eu 69 ans à Noël, et tu peux voir par son exemple que la passion n'est qu'un vain mot, et que l'homme, vraiment homme, peut toujours en triompher avec le secours du ciel. Du reste, si tu le veux, je te le ferai connaître. Il te contera lui-même son histoire. Il l'a dit volontiers. C'est ce qu'il appelle
« se donner la discipline avec le souvenir ».
Jacques n'était, certes, pas en train de rire, mais ce mot lui fit relever la tête. Et il regarda Boudinot pour voir s'il parlait sérieusement.
« Eh bien, à quoi te décides-tu »
demanda celui-ci sèchement, choqué qu'il était du peu d'impression produit par cette anecdote édifiante.
« Te couches-tu ou veux-tu lire ?»«
Je te remercie. Je vais essayer de lire. »
« Tu ferais peut-être mieux de t'allonger sur le canapé, parce que si tu t'endormais en lisant, quoique l'abbé Huc soit très intéressant, tu pourrais mettre le feu. Un malheur est si vite arrivé. »
« C'est bien, alors je vais m'allonger. »
« Comme tu voudras, mon ami, comme tu voudras. Avec moi, on est libre. Bonsoir. »
Et il s'enfonça dans son oreiller, puis bientôt, se retournant,
« C'est égal. Tu m'as fait une belle peur en frappant à ma porte. J'ai cru que notre Saint-Père le Pape était mort. Heureusement, je me trompais. Quel bonheur, mon Dieu !»
Le lendemain, dès le matin, Jacques, qui ne voulait pas importuner davantage l'excellent Boudinot, alla à l'hôtel du Rhône et y retint une chambre. Un camarade d'Émile, qui logeait au premier, répondit pour lui. Quand il se trouva seul dans cette chambre sale, nue, sentant la pipe, boueuse comme une rue, et où avaient passé 30 générations d'étudiants, quand il lui fut bien démontré que la journée entière s'écoulerait sans qu'il vît ou qu'il entendît Caroline, il se sentit pris d'un immense ennui, d'une lassitude absolue, d'un écœurement affreux. Il sortit pour sortir, pour marcher, et au bout d'une demi-heure, il se trouva rue de Buffault. Que ceux qui, pour avoir conduit de jeunes fleuristes le dimanche à Meudon et les avoir abandonnés le lundi matin sans souffrir, disent naïvement connaître l'amour, que ceux qui ont toute leur vie vécu calme et heureux auprès d'une tranquille épouse, que ceux qui ont quitté la femme qui leur inspirait leurs crimes, que ceux qui n'ont jamais commis ni admis les lâchetés de la passion, que les animaux à sang-froid qui soutiennent avec l'opiniâtreté de la bêtise, que toujours la tête domine le cœur, que toujours la volonté dompte le désir, la dignité la faiblesse, l'hypocrisie la vérité, que cela méprise Jacques et le condamne impitoyablement. Ceux qui ont vraiment aimé, qui ont vraiment souffert, qui ont 20 ans ou qui les ayant eus s'en souviennent encore, ceux-là le plaindront. Et peut-être même, dans leur indulgente expérience, ils lui pardonneront. C'était une sorte d'habitude. C'était un instinct irrésistible qui avait amené Jacques devant la porte de Caroline. Ce fut la réflexion qui le fit s'y arrêter. « Comme cette terrible scène d'hier a dû la secouer !» se dit-il. « Elle est peut-être au lit. Elle a la fièvre. » Si j'allais demander à Émile comment elle va ?
Il monta. Arrivé devant la porte, il fit 2 ou 3 pas pour redescendre, mais il n'en eut pas le courage.
« C'est toujours Émile qui vient ouvrir »,
se dit-il pour se justifier. Il sonna. Ce fut Caroline qui parut.
« Pourquoi n'es-tu pas venu ce matin ? »
lui dit-elle sans se troubler.
« Je t'avais fait une bonne tasse de café au lait. »«
Et c'est Arthur qui l'a mangé ? »
dit-il malgré lui. Caroline garda un sérieux imperturbable.
« Non, »
dit-elle.
« Je te l'ai conservée. Elle est là. Je vais rallumer un peu de feu. Tu dois avoir faim. »«
J'ai froid. »
« Entre, entre donc, et viens près du feu. Je suis seul. Ils sont partis. »«
Quoi faire ?»«
Je ne sais pas. Acheter des meubles, je crois. »
Ils entrèrent dans le salon.
« Regarde ce que j'étais en train de faire, »
dit-elle. Sur le secrétaire ouvert, toutes les lettres de Jacques étaient éparpillées, déployées.
« Je relisais tes lettres, mon pauvre chéri. Ah, c'est bien triste, va. Comme elles sont belles, comme elles sont éloquentes. Ah, tu m'as aimé comme il faut, toi. Sais-tu que tu as du génie ? Et de l'esprit bien plus qu'Arthur. Tiens.
Fit-elle en ouvrant un des cahiers où Jacques inscrivait ses notes.
Cette nuit, quand tu as été parti, j'ai ouvert ce cahier. J'ai lu toutes tes notes. Et voici ce que j'ai écrit dessous. Viens, mon Jacques, viens voir.
Au milieu de la page blanche, se détachaient ces mots. Amitié, toujours. Caroline Foulogne. Ils causèrent ainsi pendant un quart d'heure. Jacques était trop dompté, trop maté déjà par l'infortune. Il était trop heureux de cette fugitive entrevue et de la compassion angélique de Caroline pour récriminer ou se rebeller. Il écoutait cette voix chérie. Il regardait cette tête bien-aimée, et dans l'ivresse de l'heure présente disparaissait le passé, s'adoucissait l'avenir. Tout à coup, Caroline se leva.
« Et ton café que j'oubliais, mon pauvre enfant ?»
Elle alla dans la cuisine et apporta une tasse pleine. La corruption fut complète. Le cœur gonflé de Jacques avait déjà été amolli par ses tendres paroles. Son pauvre corps transi réchauffé par ce feu joyeux, son estomac affamé fut séduit par le parfum du lait et du café.
« Attends !»
fit Caroline, et allant chercher une petite tasse qu'elle mit devant elle, elle y versa quelques gouttes de lait.
« Attends, mon enfant, nous allons faire la dînette tous les deux. »
Jacques portait la première cuillerée à sa bouche. Lorsqu'un terrible coup de sonnette se fit entendre.
« Ce sont ces messieurs !»
dit Caroline en se levant brusquement.
« Cache-toi vite, là !»
Des pas retentirent dans le corridor. Presque aussitôt, elle vint le déprisonner.
« C'est la couturière !»
lui dit-elle à voix basse.
« Je l'ai fait entrer là, dans la salle. Il ne faut pas qu'elle te voie. » Ces gens-là sont si commères. Sauve-toi vite et tâche de venir demain à la même heure. »
Jacques, plein de rage et de honte, rougissant de lui-même, maudissant sa lâcheté, haïssant son amour, mais ne pouvant s'arracher du cœur un reste de fol espoir, revint ainsi pendant un mois. Pendant 30 jours, il gravit cet escalier et sonna cette sonnette. Mais il ne fut pas toujours reçu. Tantôt Foulogne venait ouvrir, et, au lieu de laisser rentrer Jacques, il l'emmenait avec lui. D'autres fois, et le plus souvent, il n'y avait personne. Ils étaient tous partis. Un dimanche qu'il était venu 4 fois sans la rencontrer, il la trouva enfin qui rentrait seule.
« Ces messieurs sont derrière moi, »
dit-elle.
« Que me veux-tu ? »
« J'ai besoin de te parler. »«
Eh bien, trouve-toi demain, à 8 heures du matin, sur le trottoir à droite, dans le passage Saulnier. »
Tous deux furent exacts au rendez-vous.
« Je suis bien malheureuse, va, »
dit Caroline.
« Tu ne sais pas ce qui arrive. On a dit à Arthur que tu venais tous les jours. Il s'est mis dans une colère affreuse et il a cherché querelle à Émile. Tu sais comme il est grossier. » Et puis, il a dit que désormais, ce serait lui qui ouvrirait la porte, et qu'il te tuerait s'il te voyait. Il est même allé hier acheter des pistolets et il a passé tout son temps à les charger et à les décharger. S'il pensait que je suis ici, il serait capable de les employer à se faire sauter la cervelle. Ainsi, mon Jacques, par amitié pour moi et pour Émile, prends un peu de force. Habitue-toi à ne plus venir. Tâche d'aimer une autre femme. L'amour guérit l'amour.
Et sur cette grande parole, elle le quitta sans qu'il eût trouvé un mot à lui répondre, tant il était accablé, stupéfait, ahuri. En rentrant chez lui, il aperçut Boudignot, qui avait demandé la clé et qui l'attendait.
« Je suis monté, »
lui dit-il,
« en revenant du sermon de Saint-Germain-l'Auxerrois. Je voulais t'amener le père Labutte pour qu'il te racontât son histoire et essayât de sauver ton âme. Mais il est si occupé à son confessionnal que ça a été impossible. Du reste, je suis content de ne pas avoir suivi cette pensée. Il y avait en bas, dans le bureau de l'hôtel, de ces malheureuses qui font de leur corps métier et marchandise. Et la vue de ces brebis égarées, qui buvaient de l'eau-de-vie et fumaient, eût navré le cœur de ce saint homme. Moi-même, j'ai préféré demander ta clé que t'attendre dans une pareille société. Mais toi, mon pauvre garçon, où en es-tu? Commences-tu à reconnaître l'inanité des passions? Commences-tu à sortir des griffes de la concupiscence?
Jacques souffrait de sa faiblesse, mais il en avait le cynisme. Il raconta sans déguisement ses hontes quotidiennes et jusqu'à la dernière entrevue qui venait d'avoir lieu.
« Je ne te comprends vraiment pas, » lui dit Boudignot. « Tu sais que cette femme en aime un autre, et tu vas la revoir. Ceci passe toutes mes idées. Ne vois-tu pas, malheureux, que tu la plonges ainsi dans un double dérèglement? Ne vois-tu pas? Mais laissons là le point de vue purement religieux, pour lequel, je le crains, tu n'es pas encore suffisamment préparé. Je veux m'adresser à des sentiments purement humains, à la convenance, à la pudeur, à la dignité. Tu ne sais donc pas à quel point tu te dégrades?
Dans les dispositions de cœur, d'esprit et de nerfs où se trouvait Jacques, ce sermon venait assez mal à propos.
« Ah, je vous trouve tous merveilleux !»
s'écria-t-il en éclatant.
« Avec vos consolations et vos leçons. » Celui-ci me dit « Prenez mes anciennes maîtresses, elles compléteront votre éducation. Celle-là ose me conseiller d'aimer une autre femme, parce que, selon elle, l'amour guérit l'amour. Et voilà que toi, maintenant, tu me reproches la sincérité, la folie sacrée de ma passion, et que tu me jettes ton père Labutte à la tête. Est-ce assez de bêtises et d'hypocrisie? Vous parlez tous légèrement de ma passion, eux parce qu'elle les gêne, toi parce que tu ne la connais ni ne la mesures. Tu te figures donc qu'on est libre d'arrêter son cœur à volonté, comme on arrête une locomotive sur un chemin de fer. Tu crois qu'il y a des freins pour le désir et qu'il n'y a qu'à les serrer. Tu ne sais pas que la passion vraie s'alimente de la défaite aussi bien que du succès, que satisfaite, elle veut plus encore, que contrariée, elle s'exaspère. Vous pouvez vivre peut-être, vous autres, sans tendresse, sans chaleur et sans flamme. Moi, je ne le peux pas. Je suis, et quand je dis moi, je sais qu'il y en a bien d'autres. Nous sommes une phalange d'âmes délicates, d'êtres nerveux, qui avons des exigences particulières et qui, en dehors de certaines conditions, ne pouvons vivre. Notre atmosphère, notre pain quotidien, notre avenir à nous, c'est la passion, ces joies enivrantes, ces douleurs atroces. Tu m'as dit tout à l'heure que j'étais un lâche. Ceci dépend de la manière d'envisager la question. Crois-tu qu'il ne me fallait pas prendre sur moi pour triompher de mon orgueil? Crois-tu que, sans pâlir et sans trembler, je montais cet escalier funeste, mon calvaire à moi? Crois-tu que j'ignorais les affronts que j'allais recueillir,
les rebuts que j'allais supporter. Si je ne m'en doutais pas le premier jour, je devais savoir à quoi m'en tenir le second ou le troisième. Et puis, n'était-ce pas horrible de passer un instant fugitif plein d'angoisse et de crainte auprès de celle avec qui j'avais passé tant de journées si paisibles, si radieuses? Vos martyrs que les Chinois attachent à des carcans ont-ils connu la souffrance sans nom que j'éprouvais à rôder les yeux en larmes et l'écume à la bouche autour de ce cœur qui m'avait appartenu? Et tu crois qu'il ne me fallait pas un certain courage pour me dire tous les matins « Ces douleurs, je les accepte. Ces hontes, je vais les boire. Cette couronne d'épines, je vais l'enfoncer sur mon front. » On a essuyé la sueur qui coulait le long des tempes de votre Christ. On lui a porté sa croix. Nous autres, nous n'avons personne pour nous assister. Les sages nous dédaignent, les justes nous condamnent, les saints nous maudissent. Eh bien, vous avez beau faire, vous avez beau vous mettre de concert avec le malheur, l'appeler à votre aide, le regard de celle que nous aimons, le son de sa voix, moins que cela, un pli de sa robe, moins que cela encore, un ruban qu'elle a porté, nous rendent heureux à en être fous, robustes à soulever des montagnes, miséricordieux à vous pardonner. Nous en mourrons de notre passion, mais parce que nous en avons trop vécu, comme on devient aveugle en Orient parce qu'il y a trop de lumière, et nous n'avons rien à regretter, rien à désavouer. Si les paroles d'un homme au désespoir et qui se sent submergé dans sa douleur peuvent avoir quelque autorité sur ton esprit et t'apprendre la vérité vraie de la vie, écoute cette sincère déclaration et ne hausse point les épaules. Caroline vient de me chasser. Elle va se donner à un autre. Je la hais, je la méprise. Mais jusqu'au jour où l'on portera l'un de nous au cimetière, je resterai son esclave. Elle tiendra toujours le bout de la chaîne dont l'autre extrémité est rivée dans mon cœur. Les leçons de l'expérience, menterie. Les enseignements de la sagesse, venterie. Il n'y a qu'un maître qu'on serve toujours fidèlement, parce qu'en lui obéissant, on se sert soi-même. Et ce maître, c'est la passion. Fin de la première partie.